Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
La journée mondiale de la maladie de Parkinson, qui a lieu ce 11 avril 2025, est l'occasion de sensibiliser et d'informer sur cette pathologie neurodégénérative qui bouleverse la vie de milliers de personnes. Aujourd'hui, on décompte plus de 200 000 malades en France, soit 2% de la population après 65 ans, et la prévalence de cette maladie ne cesse d'augmenter depuis quelques décennies. On va tenter, dans l'envie de savoir, de comprendre les mécanismes en jeu dans le déclenchement de la maladie, de mieux cerner le rôle des facteurs génétiques et d'explorer les pistes thérapeutique. Pourra-t-on vaincre un jour la maladie de Parkinson? Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexis Brice. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici dans notre studio à l'Institut. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, professeur de génétique médicale et spécialiste des maladies neurodégénératives, en particulier celle de la maladie de Parkinson. Vous avez dirigé jusqu'à fin 2024 l'Institut du cerveau à Paris, un centre à la pointe de la recherche mondiale sur ces pathologies. Alors, il reste encore beaucoup de zones d'ombre autour de cette maladie. Bien sûr, la recherche a beaucoup avancé depuis son identification. On va y revenir dans un instant. Mais avant cela, un mot sur son origine. À quel moment la maladie a-t-elle été identifiée et décrite pour la première fois?
Eh bien, il y a 2 siècles, un petit peu plus maintenant, je crois, par un médecin qui s'appelait Parkinson, qui était d'ailleurs un médecin généraliste. À l'époque, il n'y avait pas de spécialiste, qui a rapporté les caractéristiques de cette maladie. Et puis, c'est plus tard le grand neurologue français Charcot qui a proposé que le nom de cette maladie soit celui de Parkinson, pour rendre à César ce qui était à César. Et donc, la description première de cette maladie, Princeps, à ce médecin Parkinson, James Parkinson.
Alors, on peut parfois la confondre avec la maladie d'Alzheimer, cette maladie de Parkinson, qui est une autre maladie neurodégénérative, mais il faut bien distinguer les deux. Parkinson, c'est surtout une perte de contrôle dans les mouvements.
Alors, la maladie de Parkinson a plusieurs dimensions.
Ouais.
L'une d'entre elles est la plus connue, et bien sûr, le trouble du mouvement avec les tremblements qui apparaissent dans les membres essentiellement, et puis ce ralentissement des mouvements, cette marche qui se fait à petits pas par exemple,
ou l'écriture,
la kinésie ou l'hypokinésie, et puis également maintenant de plus en plus de signes non moteurs qui sont associés et qui traduisent le fait que dans le cerveau, la maladie n'est pas localisée à une certaine population de neurones, qu'on appelle les neurones dopaminergiques, mais aussi qu'elle s'étend de façon un petit peu plus large et surtout avec le temps et la progression de la maladie.
Est-ce que cette maladie peut aussi affecter, comme la maladie d'Alzheimer, les capacités intellectuelles aussi? C'est un symptôme qui arrive souvent?
Alors, comme c'est une maladie qui touche le système nerveux et plusieurs types de neurones, elle peut avoir effectivement un impact sur les capacités cognitives. Ça dépend des formes de la maladie, mais qui se présente sous une forme différente de ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer. C'est pas du tout le même processus cognitif qui sont atteints dans ces deux pathologies. Ces deux maladies sont fréquentes. Vous avez parlé de 2% de la population. Le facteur de risque majeur, c'est l'âge. Et donc, plus on vieillit, plus la probabilité d'avoir une maladie de Parkinson augmente. C'est la même chose pour la maladie d'Alzheimer, sauf qu'elle est encore plus fréquente. Et du coup, on peut retrouver chez un même patient ces deux maladies associées. C'est pas impossible. Donc, voilà, il y a entre la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer d'un côté identifiées et séparées, et puis des personnes qui, malheureusement, peuvent avoir une combinaison des deux pathologies.
Alors, comment ça se passe dans notre cerveau? Vous avez parlé de disparition, de dégénérescence de neurones à dopamine. À quoi servent-ils ces neurones exactement?
Il y en a beaucoup,
ouais.
Mais disons que dans la maladie de Parkinson, Les neurones qui dégénèrent sont ceux d'une petite région du cerveau qu'on appelle la substantia nigra, la substance noire, parce qu'elle est colorée en noir grâce à un pigment qui s'appelle la neuromélanine. Et ces neurones dopaminergiques dégénèrent progressivement au cours de la maladie. Ils sont particulièrement sensibles au cours du processus pathologique et leur dégénérescence a des conséquences dans ce qu'on appelle les noyaux griffes centraux, une région du cerveau qui est impliquée dans de nombreux processus automatiques et en particulier des processus moteurs. Et donc c'est pour ça que la maladie se traduit le plus souvent ou est reconnue le plus souvent à l'occasion de troubles moteurs, tremblements, akinésie, troubles de la posture et de l'équilibre.
On va rentrer dans le détail du déclenchement de la maladie dans quelques instants. Mais avant ça, en préparant cette émission, on est tombé sur cette statistique qui nous a un peu interpellés. On a vu que l'âge médian du diagnostic était de 58 ans. Alors, à un instant, vous disiez qu'un des facteurs importants est l'âge, mais des personnes un peu plus jeunes sont aussi touchées. Est-ce qu'on constate aujourd'hui une augmentation de malades plus jeunes ?
Alors, je crois qu'on n'observe pas d'augmentation. Ouais. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'argument épidémiologique, à ma connaissance. Par contre, on reconnaît mieux la maladie de Parkinson chez les sujets jeunes, parce qu'avant, on ne pensait pas à ce diagnostic de la même façon. Et puis, l'âge moyen de diagnostic de 58 ans, c'est probablement des statistiques qui viennent de milieux hospitaliers, puisque les sujets les plus jeunes vont être ceux qui vont être suivis à l'hôpital, pour lesquels on s'interroge sur la cause de la maladie, etc. Alors qu'en réalité, dans la population générale, la maladie a tendance à commencer beaucoup plus tardivement en moyenne.
Alors, la maladie de Parkinson, c'est une maladie multifactorielle. Ça veut dire qu'elle est déclenchée à la fois par des gènes, mais aussi des facteurs environnementaux, c'est ça ?
Alors, multifactoriel, ça recouvre souvent notre ignorance sur les facteurs eux-mêmes. Mais ça veut dire qu'en général, on imagine une interaction entre l'environnement, des facteurs environnementaux, et puis des facteurs génétiques comme étant à l'origine de la maladie. Du côté des facteurs environnementaux, il n'y a pas énormément de facteurs connus, à part l'exposition à certains pesticides, par exemple, qui peut provoquer des syndromes parkinsoniens, c'est-à-dire des troubles qui ressemblent à la maladie de Parkinson.
Mais il faut avoir une prédisposition dans les gènes, non, pour ça.
Alors, il y a certainement une interaction entre les deux, parce que, par exemple, les pesticides sont des substances pour lesquelles notre organisme à des mécanismes de défense qui sont fondés sur des enzymes qui vont transformer ces molécules et les inactiver, par exemple. Eh bien, selon la façon dont ces enzymes fonctionnent, on va avoir une susceptibilité plus ou moins grande à ces produits. Et donc, on voit là une possibilité d'interaction entre l'environnement et nos gènes. Et puis, il y a des facteurs de susceptibilité génétique. On en a identifié plus d'une centaine aujourd'hui, qu'on identifie à travers la comparaison entre des sujets qui ont la maladie de Parkinson et des sujets qui n'ont pas cette maladie et qui sont par ailleurs complètement comparables. Quand on analyse leur génome, on se rend compte qu'il y a des petites différences. Et ces différences, si on les trouve chez les patients parkinsoniens, ça veut dire que ce sont des facteurs de susceptibilité. Facteurs de susceptibilité qui ont un effet en général très petit. Et donc, c'est la combinaison de ces facteurs qui fait qu'une personne est plus à risque de développer la maladie qu'une autre. Et ces facteurs, ils sont intéressants parce qu'ils nous donnent des explications sur les causes possibles de la maladie. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore pris en compte, ces facteurs de risque, dans la pratique clinique. Par contre, ce qui a évolué ces dernières années, c'est qu'à côté de ces facteurs de risque à effet minime, on a trouvé aussi des formes purement génétiques de maladie de Parkinson. Et dans ces formes-là, l'altération, la modification d'un gène va être suffisante pour produire à elle toute seule la maladie de Parkinson. Donc c'est une situation complètement différente où le facteur génétique est là extrêmement
fort.
Et ces formes sont rares, bien sûr, mais elles nous éclairent énormément sur la maladie.
J'ai vu des chiffres assez différents sur le sujet. Entre 5 à 15% des cas sont des cas héréditaires, des cas génétiques. Ce sont les bons chiffres.
Alors, enfin,
c'est assez, ouais. Assez vague.
C'est vague pour plusieurs raisons. C'est que, premièrement, les formes génétiques ont tendance à se présenter parmi les formes les plus précoces de maladie de Parkinson.
Donc,
si on observe, si on analyse les sujets qui ont une forme jeune, on va trouver une proportion plus importante de ces formes dites génétiques.
De cas héréditaires, on peut dire ?
Alors, héréditaires dans la mesure où ces traits génétiques se transmettent selon les lois de Mendel. Mmh. Donc, oui, on peut dire héréditaire, mais héréditaire, ça ne veut pas dire que forcément elles se transmettent de génération en génération.
D'accord.
Il y a plusieurs modes d'hérédité. Mais en tout cas, ça rejoint effectivement le concept de maladie héréditaire, de maladie génétique.
Mmh.
Donc, je disais, les formes les plus jeunes sont enrichies dans ces formes génétiques. Et puis ensuite, il y a des facteurs qui sont liés à la population, qui sont très importants, puisque quand on analyse la population mondiale de sujets parkinsoniens, on se rend compte qu'il y a des gènes qu'on ne retrouve que dans certaines populations, d'autres qui sont beaucoup plus fréquents dans certaines populations par rapport à d'autres. Et ce qui fait qu'il n'y a pas un chiffre global, mais il y a des valeurs population
ouais.
spécifiques.
Quelles sont les populations les plus à risque dans ces facteurs génétiques ?
Par exemple, on a découvert il y a une quinzaine d'années un gène qu'on appelle LRRK2, LRRK2.
Mm-hmm.
Et ce gène a la particularité d'avoir une mutation qui est extrêmement fréquente, dont la fréquence varie beaucoup selon les populations. Elle est, par exemple, absente dans toute la population asiatique. En Europe, elle représente de l'ordre de 1% des cas ou de 2-3% s'il s'agit de formes familiales. Mais il y a deux populations dans lesquelles ce gène est trouvé avec une fréquence beaucoup plus élevée. Ce sont d'une part la population d'Israël, en particulier les Juifs ashkénazes, où elle représente entre 10 et 20% des
ah
cas.
Oui.
Et puis en Afrique du Nord, en particulier en Tunisie, au Maroc, en Algérie, où elle dépasse le tiers des patients parkinsoniens, qu'ils aient une histoire familiale ou pas d'histoire familiale. Donc on voit là, il y a un gradient de fréquence qui est extrêmement différent d'une population à l'autre et qu'il faut tenir compte évidemment de l'origine des patients pour savoir s'il faut chercher cette cause. Donc on est face finalement à une maladie qu'il y a 30, 40 ans, un siècle, on pensait n'être pas du tout familiale pour se rendre compte que dans certains cas, elle peut être d'origine génétique. Mais bon, c'est loin de représenter l'ensemble des cas. Et puis, il faut vraiment descendre au niveau de la population pour pouvoir tenir compte de ces différences. Puis, il y a d'autres exemples, comme celui que je vous donne, peut-être moins spectaculaires dans les chiffres, mais en tout cas qui montrent des différences qui sont population spécifiques.
Mais pour revenir à ces populations, vous avez parlé donc des Juifs ashkénazes et puis la région en Afrique du Nord. On sait pourquoi ces populations ont plus souvent, enfin plus que les autres populations, ce gène, LRRK2 ?
Alors, on ne le sait pas.
Non.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que les études génétiques qui ont été menées montrent que cette mutation très fréquente provient de ce qu'on appelle un effet fondateur. C'est-à-dire qu'elle est apparue un jour dans une population ancestrale et qu'elle a été transmise telle qu'elle aux descendants qu'on observe aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas une mutation qui est survenue de façon récurrente et qui se répartit. Non, il y a eu un effet fondateur unique il y a quelques milliers d'années, probablement. Et ensuite, une fois que cette mutation a été présente, elle s'est transmise dans ces deux populations et on la retrouve maintenant. C'est exactement le même background génétique sur lequel elle est survenue puisque c'est un individu, bien sûr inconnu,
ouais.
Mais c'est intéressant de voir comme elle peut être commune à différentes populations et en Europe, où elle est moins fréquente, c'est aussi la même origine qu'on retrouve.
Pour continuer dans les facteurs génétiques, donc là, on vient de parler d'un gène en particulier, le gène LRRK2. Au total, il y a 13 gènes qui ont été identifiés, c'est bien ça, comme causant la maladie. Tous ces gènes n'ont pas le même impact. Il y a des gènes plus ou moins puissant dans le déclenchement de la maladie.
Il y a 13, c'est un chiffre, mais il évolue tout le temps.
Potentiellement, il y en a plus.
Donc, il y en a probablement 15 ou 20, d'accord, aujourd'hui, dont on est sûr qu'ils sont responsables de la maladie de Parkinson. Mm-hmm. Évidemment, ils n'ont pas tous la même fréquence et la plupart sont des gènes qui sont très rares. Donc, ils sont associés à la maladie avec, quand ils sont présents, le même risque en général, mais leur fréquence est souvent beaucoup plus faible. Donc, l'intérêt de ces gènes, finalement, c'est pas tellement le fait qu'ils représentent une proportion importante de la population, mm-hmm, mais c'est plutôt à travers ce qu'ils nous apprennent de la maladie et des causes de la maladie et donc des mécanismes. Il faut savoir que ces formes génétiques ont un intérêt à partir du moment où on considère que l'anomalie génétique en cause est responsable de la maladie, parce que ça nous donne un lien direct entre une anomalie génétique et une pathologie qui va survenir chez ces individus. Et donc, pour comprendre les mécanismes en profondeur, ces gènes sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous permettent de modéliser la pathologie dans des organismes vivants ou dans des cellules et d'étudier les perturbations qu'ils entraînent pour comprendre la maladie. Mmh.
Alors, il y a ces gènes, et puis j'ai lu aussi qu'il y avait une autre pièce maîtresse, entre guillemets, dans le déclenchement de cette maladie, c'est la protéine A6-nucléine, qui est exprimée dans les neurones. Quel lien on peut faire entre ces gènes qui jouent un rôle dans le déclenchement de cette maladie et cette protéine A6-nucléine? Quel est le lien entre les deux?
Alors, c'est quelque chose de vraiment intéressant là, parce que effectivement cette protéine qu'on appelle l'alpha-synucléine, mm-hmm, parce qu'il y a une bêta et une gamma-synucléine, c'est une protéine qui est extrêmement abondante dans les neurones. Et on a découvert, et c'est le premier gène qui a été découvert, que le gène qui code pour l'alpha-synucléine, qu'on appelle SNCA, peut être porteur de mutations qui sont extrêmement rares, qui sont associés à des formes génétiques de maladie de Parkinson. Et quand on a étudié cette protéine, on s'est rendu compte qu'elle était le composant principal de ce qu'on appelle le corps de Lévy. On n'a pas eu le temps d'en parler encore, mais les neurones dopaminergiques, en particulier dans la maladie de Parkinson, quand ils dégénèrent, eh bien, avant de dégénérer, les neurones qui sont survivants, qu'on observe dans le cerveau des patients, sont porteurs d'inclusions dans leur cytoplasme, dans le corps cellulaire, qu'on appelle les corps de Lévy, qu'on connaît depuis des décennies, mais dont on ne savait pas de quoi ils étaient faits. Et on s'est rendu compte, avec la découverte de mutations responsables de maladie de Parkinson dans le gène de la synucléine, dans le gène SNCA, que la protéine qu'il code est la protéine qui s'accumule dans les corps de Lévy. Donc, on peut en conclure qu'un gène qui est très rarement atteint dans la maladie de Parkinson, mm-hmm, responsable de formes familiales, code pour une protéine, il produit une protéine, et que c'est cette protéine qui s'accumule dans le cerveau des patients qui ont une maladie de Parkinson, mais sans avoir de mutation dans ce gène. Mm-hmm. Et donc, on a là un lien très fort entre une forme génétique qui produit une alpha-synucléine mutée, par exemple, et puis la maladie de Parkinson qu'on appelle idiopathique, celle qui est trouvée chez la plupart des patients et où on n'a pas de cause, ni génétique, ni environnementale. Ce dont on parle là, c'est toutes les formes pour lesquelles on n'a pas trouvé la cause de maladie de Parkinson, pour laquelle il n'y a pas une cause évidente. Et donc, on dit idiopathique pour cacher notre manque d'informations et de connaissances. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces formes, qui sont les formes communes de maladie de Parkinson, disons, eh bien, des sujets présentent cette accumulation de protéines, alpha-synucléines. Et donc, c'est un mécanisme qui a l'air commun à de nombreuses formes de maladie de Parkinson. Et c'est pour ça que c'est une cible, cette protéine thérapeutique qui est intéressante et qui a déjà été testée.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui permette de guérir de la maladie de Parkinson. Ce qu'on donne aux patients, les médicaments qu'ils prennent, c'est un traitement qui va juste diminuer en fait, les effets de la maladie, mais qui ne va pas stopper sa progression.
Alors, les traitements actuels sont des traitements dits symptomatiques.
Ouais.
Ils vont effectivement corriger certaines anomalies, mais qui n'ont pas la capacité à ralentir la progression de la maladie. Et effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de développer des traitements dits neuroprotecteurs. Ils vont être capables de permettre la survie des neurones qui sont affectés et surtout de leur conserver leur fonction normale. Aujourd'hui, on n'a pas encore ces traitements. Mais là, l'exemple de l'alpha-synucléine montre que si on arrive à bien déterminer quelle est la cible et quel est le moment auquel il faut traiter, on devrait être capable d'avoir une influence sur la maladie. Donc, on commence à y voir un peu plus clair, mais on n'y est pas encore tout à fait, je crois.
Est-ce qu'aujourd'hui, les médecins peuvent prédire l'évolution de la maladie chez une personne atteinte de Parkinson ?
Alors, je crois que pour répondre à cette question, il faudrait peut-être préciser qu'aujourd'hui, on ne considère plus qu'il y a la maladie de Parkinson.
Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs formes de maladies.
Je crois que les exemples de formes causées par l'environnement, ouais, causées par des gènes, montrent bien qu'il y a plusieurs formes de maladie de Parkinson. On n'a pas eu l'occasion d'aborder ça, mais selon les formes génétiques, il y a des différences dans la progression, donc la vitesse de progression, différence dans l'extension aussi de la maladie, des maladies plus ou moins pures ou des maladies avec des troubles additionnels. Donc, il y a vraiment plusieurs maladies de Parkinson. Et je pense que pour prédire un petit peu la progression, il faut savoir à quelle forme
on
a affaire. Alors, on commence à avoir des profils un petit peu différents, mais même au sein d'un même groupe, il y a des différences évolutives. Et je voudrais juste revenir sur le cas l'ARC2 dont on a parlé, pour vous dire que ces formes, en dehors de leur très grande fréquence dans certaines populations, sont caractérisées par ce qu'on appelle une pénétrance incomplète.
Alors,
ça veut dire...
Qu'est-ce que ça veut dire, oui?
Ça veut dire que les porteurs de la mutation génétique ne vont pas tous développer une maladie de Parkinson. Et on a trouvé que, par exemple, en Afrique du Nord, à peu près 1 sur 6 des porteurs développera la maladie à l'âge de 80 ans, aura développé la maladie, alors que 5 sur 6 ne la développeront pas. Donc il y a une très grande variabilité d'un sujet à l'autre. Certains la développent, on ne sait pas pourquoi. Les autres sont en quelque sorte protégés par rapport à la maladie. Et en plus, quand un sujet va développer cette maladie, ça peut survenir très tôt. Il y a des formes qui débutent dans la trentaine et puis des formes qui débutent à 80 ou 90 ans. Donc, vous voyez une variabilité de l'âge de début, mais aussi de ce facteur de pénétrance qui est réduit et qui indique bien qu'il doit falloir autre chose pour que la maladie apparaisse, autre chose que le gène lui-même. Et donc, c'est vous dire combien c'est difficile de prédire l'évolution la maladie.
Il reste encore beaucoup de questions irrésolues sur cette maladie, par exemple. Pourquoi elle touche plus souvent les hommes que les femmes ? Ça, on a aussi du mal à répondre à cette question.
Alors, on a énormément de mal à y répondre. On a recherché s'il y a des facteurs génétiques liés aux chromosomes sexuels, X et Y. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé, en tout cas, l'explication. La plupart des facteurs génétiques qui sont connus sont non liés au sexe. Et justement, dans les formes génétiques, on n'a pas de différence importante entre les hommes et les femmes. Alors pourquoi, dans la maladie commune, il y a un excès d'hommes, reste vraiment une inconnue.
J'ai lu aussi sur le site de l'Institut du cerveau que le tabac et la caféine semblent, selon certaines études, être des facteurs protecteurs contre le développement de la maladie. Alors, le tabac me permettrait d'éviter le déclenchement de la maladie. Est-ce que c'est une information qui est confirmée par les études ?
Alors, c'est confirmé par les études, effectivement. Le fait de fumer est neuroprotecteur. S'agit-il d'un effet direct du tabac ? tabac avec la nicotine, une interaction avec les neurones dopaminergiques, c'est bien connu. Ou bien s'agit-il d'une sorte de biais qui fait que les sujets qui fument ont autre chose qui les protège de la maladie de Parkinson. C'est pas encore très clair. Je n'irai pas jusqu'à recommander
non, ce n'est pas une,
de fumer.
Invitation à fumer.
Il y a des risques bien plus élevés d'autres problèmes, et en particulier de cancer du poumon. Mais en tout cas, c'est une observation extrêmement solide qui a été faite dans ce contexte. Et donc, on connaît finalement plus de facteurs environnementaux qui sont protecteurs, et la caféine en est peut-être un aussi, que de facteurs, finalement, qui provoquent, qui sont à l'origine de la maladie. C'est un peu paradoxal.
Ouais. À long terme, c'est une maladie dont on pourra guérir, de la maladie de Parkinson ? Long terme, moyen terme
Je l'espère, évidemment, puisque j'ai passé toute ma carrière à étudier les causes de cette maladie, avec l'idée que trouver les causes nous permettrait d'intervenir sur les conséquences de ces causes. Je crois qu'on a énormément avancé sur la connaissance. Il nous reste maintenant à trouver les bons outils, les bons moments pour vraiment appliquer ces connaissances à la prévention de la neurodégénérescence dans ces maladies. Et je crois que ce qui est vraiment très important aujourd'hui, c'est non seulement d'avoir les outils pour traiter la maladie quand elle est présente, mais aussi d'essayer de remonter dans le temps et de détecter des sujets qui sont à haut risque de la maladie ou qui ont des signes seulement prodromaux. La maladie n'est pas encore complètement déclarée. Et c'est à ce moment-là qu'il faudrait être capable d'intervenir et de ralentir ou d'arrêter la progression de la maladie.
Développement des symptômes.
Donc on a tout un champ qui s'ouvre. Maintenant, espérons qu'on a déjà les bons outils pour tenter ces approches qui sont vraiment complexes, mais qui sont les plus porteuses d'espoir par rapport au traitement de la maladie.
Bien sûr. Bien, merci beaucoup Alexis Brice pour tous ces éclaircissements sur la maladie. 11 avril 2025, la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Il y a de nombreux événements qui sont organisés dans toute la France pour faire mieux connaître la maladie. On mettra tous les liens sur notre page. Merci encore.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Les podcasts de l'Institut de France.